Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
Si la poesía no vi ayuda a vivir, allora fate un'altra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
L'émission de la BIP, Brigade d'Intervention Poétique, jusqu'à 22h sur Radio Clapas.
21h.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Une émission présentée par Yves Flanck et Michel Arbat s'est consacrée à la vie des poètes. Avec, au gré des émissions, les voix de Claude Maurice, Charo Beltran, Florence Mourieras, Cécile Combredet, Marc Pastor, Patrick Vendrin, Didier Mailleux, Marc Na, Julien Guil, Yves Flanck et Philippe Goudard.
Et Jean-Claude César.
Et ça se passe tous les premiers et troisièmes mardis de chaque mois. Bonsoir, bonsoir, voici donc le deuxième volet de cette émission spéciale Printemps des Poètes qui s'est achevée déjà il y a deux jours, mais comme on l'a dit déjà, nous on est plutôt pour le Printemps des Poètes, donc ça ne nous arrête pas pour autant, et on est toujours avec nos deux invités qui sont Michael Gluck et Anne Belin, deux poètes qu'on estime et qu'on a invités dans cette émission. Je vais dire quand même qu'il y a ce soir autour de cette table aussi Patrick Vendrin, Thérèse Bonetta, Yves Flanck et moi-même qui avons préparé cette émission, qui est aussi en même temps une sorte de best-of, on va dire, de tas d'enregistrements qu'on a fait dans les émissions précédentes au cours des années qui y ont passé. Et puis on était là un petit peu... On continue sur ce thème de l'enfance, on brode un petit peu sur ce thème qui a été proposé pour ce, je ne sais plus d'ailleurs la combientième édition, on s'en fiche un peu après tout, hein, puisque l'enfance elle n'a pas d'édition particulière.
La dernière fois nous avons très rapidement questionné, y a-t-il une poésie pour les enfants ? Voilà. Et d'autre part, le fait, comme on dit, de se retourner à l'enfance ou à l'état d'enfance, sa présence au monde pour écrire la poésie. Et là, il me revenait, pas plus tard que cet après-midi, il y a aussi des enfants qui écrivent des choses qui peuvent être dédiées aux adultes aussi, qui peuvent être entendues par les adultes. Sur un travail poétique à partir du jeu, la première personne, une enfant dans une école cet après-midi qui a écrit je suis un cahier qui s'envole pour chanter l'alphabet.
Alors là, ça me fait penser tout à fait à Michael et une conversation que nous avions eue avec des étudiants. Et Michael qui dit comme ça, qui évoque le matin lorsqu'il se réveille, le fait qu'il puisse voir l'alphabet dans les nuages. Pour moi, c'est une phrase qui est restée.
Oui, c'est une phrase très très concrète pour moi, puisque c'est une phrase de mon enfance. C'est quasiment la première phrase, poème que j'ai pu écrire quand j'étais enfant. À partir des pâtes alphabet que ma mère avait mis dans le fond de mon assiette, puis elle avait sorti sept lettres magiques qui sont celles de mon prénom, M-I-C-H-A-E-L. J'ai une chance extraordinaire, un prénom avec sept lettres différentes et un bel équilibre entre consonnes et voyelles. Et elle me dit, avec ça, tu peux faire des mots. Elle me montre, par exemple, que le mot ami, il est contenu dans mon prénom, en changeant l'ordre des lettres, en travaillant comme ça, comme les imprimeurs d'autrefois, avec la pince, mais là c'était les doigts, hein, ou la fourchette, je ne sais plus. Voilà. Et la première phrase que j'ai écrite, c'est « Michael aime le ciel ». Et les mots, depuis, je les vois toujours à la fois dans l'assiette de soupe, mais aussi dans les nuages.
C'est quand même une très jolie nourriture.
Oui.
Avec un agencement, après un éveil de poète dans la soupe.
Oui, puis comme après, il y avait d'autres langues que ma mère me chantait. Heinrich Heine, mise en musique par Schubert. Donc voilà, la poésie, elle était là, mais comme façon aussi, comme chez tous les enfants du monde. C'est en ce sens-là qu'on peut parler d'enfance. C'est que notre premier rapport au monde est un rapport au poème, à travers les berceuses, par exemple. Voilà.
Les berceuses, les comptines aussi.
Absolument, ils s'en inventent tous les jours.
Une souris verte qui courait dans l'herbe, ouais. Voilà.
Ils s'en inventent tous les jours et c'est pas toujours très drôle. Et c'est souvent pour conjurer la peur.
Hein? Oui, en fait, ça lie un peu les deux, cette sorte d'étonnement philosophique qu'ont les enfants, ouais. À toutes ces interrogations, bien et sûr. Puis toutes ces images comme ça qui sont des agencements de mots, de couleurs.
Il me revient un poème aussi qui avait été écrit dans une école par une enfant qui devait être dans les CM2, en parlant de la peur. Elle avait écrit « Dans la forêt de béton grise, je suis toute petite ». J'ai peur du loup comme le petit chaperon rouge.
Tu es mon amour depuis tant d'années. Mon vertige devant tant d'attentes, que rien ne peut vieillir, froidir. Même ceux qui attendaient notre mort, ou lentement su nous combattre, même ceux qui nous étaient étrangers, et mes éclipses, et mes retours. Fermé comme un volet de buis, une extrême chance compacte est notre chaîne de montagne, notre comprimante splendeur. Je dis chance, ô ma martelée. Chacun de nous peut recevoir la part de mystère de l'autre, sans en répandre le secret. Et la douleur qui vient d'ailleurs trouve enfin sa séparation dans la chair de notre unité, trouve enfin sa route solaire au centre de notre nuée, qu'elle déchire et recommence. Je dis chance comme je le sens. Tu as élevé le sommet que devra franchir mon attente quand demain disparaîtra.
Le dimanche matin, on fait l'amour. Et parfois, il y a la radio. Et le dimanche matin, à la radio, il y a souvent la messe. Dimanche dernier, il y avait un sermon sur la concupiscence. Bien sûr, nous entendions des voix qui nous disaient « Allô, allô, n'écoutez pas l'écoute ». Ces voix, c'étaient les nôtres. Mais nous avions aussi envie de rire, et nous n'avons pas tourné le bouton. Concupiscence. Quel beau mot disait le sermonneur et qui évoque tant de choses. Le mot conque, le nom du coquillage que l'on porte à l'oreille pour entendre le bruit de la mer. Le mot huppe, le nom de cet oiseau aux mœurs sauvages mais familières. Le mot is, le nom de la ville engloutie dans les flots et sans aucun doute par la colère divine. Le mot « Hans », sans aucun doute non plus, le nom d'un marin qui avait commis le péché, causant ainsi la disparition de la ville en question. D'ailleurs, le mot « Hans » évoque aussi l'anse du panier, qu'autrefois les petites bonnes n'hésitaient pas à faire danser et même, petit rire libre et prime sautier, l'anse du récipient qui faisait tant rire autrefois, il faut l'avouer, un peu audacieusement, les gens bien pensants. Et il répétait, en pesant ses mots avec un plaisir plein de lenteur et de persévérance, « Con-cu-pi-sence ». Il parla aussi d'autre chose, nous conseillant d'aller à confesse pour éviter le concubinage, et nous apprit qu'on appelait autrefois concuré, le prêtre exerçant la charge de curé concurremment avec d'autres abbés.
La journée d'août fondait doucement dans la poussière dorée du soir. Les trams tintaient, filant à toute vitesse, la foule passait. Distraite et comme errant sans but, je marchais dans la ruelle calme. Et, cela me revient, les cloches chantaient doucement. Imaginant votre pose, je me demandais en chemin s'il fallait ou non vous apporter une rose. Je préparais une phrase qu'ensuite, hélas, j'oubliais. Et soudain, sans crier gare, cette maison, très haute, avec un air d'ennui. Je compte les fenêtres, voici l'escalier. Involontairement, la main cherche la croix sur le cou. Je compte les marches grises qui mènent à la lumière. Je n'ai pas le temps de réfléchir, déjà, je sonne. Je me souviens comme d'un bruit de tonnerre et de mes deux mains glacées. Je vous demande, il est ici, il va venir. Que les années emportent avec la jeunesse les souvenirs inoubliés. Je garderai dans ma mémoire l'arabesque du papier peint, les perles de verre de l'abat-jour, la rumeur des voix, les vues de Port-Arthur et le tic-tac de l'horloge. L'instant est aussi long qu'une heure. Voici des pas, le grincement d'une porte, et vous voilà, et tout de suite le charme fut.
C'est toujours ainsi, c'est l'impuissance et le non-pouvoir. C'est savoir qu'elle ne peut pas, qu'elle ne pourra pas toujours ou plutôt jamais, même ainsi simplement. Ils ne font pas jamais ce qu'on leur demande, le temps ne passe pas. C'est pourquoi elle ne peut pas raconter, aucune histoire ne peut être racontée, aucun roman. Le problème, c'est le temps qui passe, et avec ça toujours, il y a un problème. Avec le temps, le problème, c'est qu'il n'y a pas de déroulement. Pas de passage, pas de succession possible, au bout de très peu encore, au bout de quoi on se demande enfin très peu, ça ne déroule plus, ça bloque. Et vient la question, comment font les autres qui déroulent ou comment ils font semblant de ça dérouler? Elle, toujours petite, elle aurait voulu tenir ça qui s'entortille et le suivre le long de couloirs larges bordés de parois, mais à ciel ouvert, ainsi l'univers des romans qu'elle aurait rêvé d'écrire, qu'elle avait commencé même, or ça ne se pouvait, car rien ne se déroulait plus, rien n'était pareil. Quand même descendue, même en bas du mur, une fois en bas, elle ne pouvait rien faire, elle ne savait où aller. Elle pourtant toujours écrit, de plus en plus dégoûtée, de plus en plus obscure, sans rien qui dise tu as raison, ou tu peux, ou vas-y, sans connaissance de ce qu'elle, depuis son enfance, essaie de faire. Et pourtant toujours, il faut que cette trace brille sur des pages ou sur des écrans d'ailleurs, de plus en plus sur des écrans. Car le papier, mais non, le papier reste sale et profond. Le papier est toujours le plus fort. Elle sent que le monde à force entre en elle et vieillit en elle, qu'il vieillisse, que rien ne reste tel et cela même est peut-être ce texte manquant, vieillir peut-être. Ce fil textuel et elle enroulés doucement au cœur d'une cellule et pourraient peut-être se saisir soudain, se dérouler certes au prix de tels retours en arrière, de tels détours, pour être lus, mais enfin, il y aurait ça.
Voilà, allons-nous retomber en enfance en écoutant cette belle musique de John McLaughlin avec Hari Prasad Chaurasia et puis je ne sais plus qui encore Quel grand musicien indien qui l'accompagne. Alors, on est toujours dans cette émission autour de l'enfance, et on avait noté dans nos petites notes, la poésie est-elle retombée en enfance ? Ah, c'est une question un peu... une question piège. On pourrait d'abord se poser la question de qu'est-ce que c'était que l'enfance de la poésie, mais l'enfance dans l'humanité de la poésie. Ça a peut-être commencé comme ça, avec des histoires, avec le jeu sur les mots, sur l'alphabet. Mais moi, j'avais... Oui,
oui, je pensais, justement, en lisant ce texte d'Anne, qui est vraiment ce fil, hein, cette pelote qui se déroule, où à la fois, on a une sorte de chute, et de chute dans le temps, et de dérouler du temps. Je pensais à ça, cette sorte de chute. Je ne sais pas ce que, oui. Anne, ce que tu peux en dire.
Pour moi, le premier art, c'est la danse. C'est l'art du corps. Hein. C'est un mouvement dans lequel on habite l'espace autrement. Et je crois que la poésie, c'est un peu la danse du langage. Alors,
c'est la danse de la nuit. Puisqu'on ne voit pas le corps, il faut bien la parole.
Voilà. Quand le corps a disparu, ou bon, qu'il a besoin d'être présent autrement. Alors, la danse des mots, la danse du langage, voilà, c'est la poésie pour moi. Et donc, une liberté aussi très grande.
Alors, si on se pose la question par rapport à la langue qui nous environne et qui s'appauvrit énormément, enfin, si on écoute par exemple la radio et les discours de nos politiques, on a l'impression que c'est exactement diamétralement opposé à cette invention de la poésie. Et la question...
Mais non, il ne parle pas en langue, il communique.
Il communique, et d'accord.
On sait bien communiquer, ça veut dire niquer le commun.
Ah ben voilà, voilà. Ben lui, il en fait, il continue sur sa lancée victorieuse. Mais on peut peut-être se poser la question aussi de, voilà, comment on a connu des époques, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 60 ans, où des poètes, enfin la poésie était souvent, enfin comme dit Gabriel Celaya, la poésie est une arme chargée de futur, et cette poésie, elle s'engageait souvent aussi dans les grands combats de l'époque. Elle s'engageait aussi d'ailleurs dans les grandes illusions. De cette époque, puisque par exemple tous ces poètes très connus comme Aragon, Ritsos, Nazim Hikmet, Pablo Neruda et tous ces poètes-là disaient leurs textes devant des foules, hein, portés par un grand mouvement historique, porté par des illusions aussi. Et quel est votre sentiment de ce qu'est la poésie aujourd'hui, enfin une sorte d'état un petit peu de la poésie par rapport à cette période où elle était très orale, très portée, où elle n'était pas prisonnière, comme dit un peu méchamment Christian Prigent, de la sclérose en plaquettes.
C'est joli, ça.
C'est pas mal dit, oui, c'est vrai. Oui. Parce que nous, notre dada, c'est ça. Nous, la Bible, c'est la poésie, l'oralité de la poésie, faire exister. Puisque un peu, pour nous, un poème qui est encore dans les pages d'un livre, c'est qu'une partition qui n'est pas encore vivante.
Oui, son existence est mystérieuse, hein, mais elle est là. Je pense qu'elle est là, beaucoup plus que ce qu'on croit. C'est un peu difficile à expliquer, mais j'ai ce sentiment qu'il y a une réelle sensibilité des gens aux mots de l'autre, à la présence d'un mystère dans le langage. Ça existe toujours, simplement ça disparaît derrière beaucoup trop de choses, mais... Enfin, je veux dire, ce n'est pas au devant de la scène, bien sûr, mais je crois que la sensibilité à la poésie, elle existe profondément, chez tous.
Bien sûr, on n'en doute pas, puisqu'on fait cette démarche, on est tous là-dedans, mais il y a quand même un petit peu cette espèce de tsunami de communication, comme dit Michael. Bon, peut-être ça ne change rien, parce que de toute façon, nous, on continue, hein.
Ça dépend aussi des pays. Okay. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir été invité à des festivals à l'étranger. J'ai été invité aussi, à Taïwan pour faire des lectures dans les universités. Il y avait un monde fou. J'ai jamais vu autant de monde écouter un poète dont ils comprenaient un peu la langue parce qu'ils étaient étudiants en français. Mais quand j'étais au Nicaragua aussi, on lisait devant 1500 personnes.
Oui, mais en France.
Mais en France, c'est pas pensable parce que ça n'est pas, ça n'est pas dans notre histoire, c'est tout.
Non.
Il hein, n'y a pas la ça même urgence.
Ça a été dans notre histoire. Par exemple, Gérard Philippe disait des textes d'Aragon, d'Éluard devant des meetings absolument énormes.
Oui, voilà. Ça existait dans des circonstances, oui.
Voilà, mais oui, c'était quelque chose d'assez
court. À des moments de l'histoire, parce qu'on a plutôt une tradition de poètes lettrés, d'un milieu, disons, de poètes intellectuels un peu coupés. On n'a pas
cette tradition. Ce qui
n'empêche
pas l'oralité.
Non, ça ne l'empêche pas du tout. Mais après, on n'a pas la tradition de qui existe au Mexique, qui existe en Amérique latine, en Chine, vraiment du poète dans la rue, qui au contact de tout le monde, qui dit son truc, sans forcément tellement de soucis de la forme, de ce qu'il est en train de faire.
Voilà, mais en France, on a aussi... Pardon, excusez-moi de vous interrompre. Oui,
oui,
Thérèse.
Non, je pense, en t'écoutant, je me disais, en fait, c'est la question d'une langue sans objet, une langue qu'on ne trouve peut-être pas en France, cette affaire de langue sans objet, une langue pour rien, qui se déroule pour rien, comme ça, juste pour les mots, les images.
C'est peut-être toute la définition de la poésie, une langue pour rien.
Oui,
justement.
Oui.
On a eu aussi une époque, on peut dire une époque d'or aussi, avec la radio après-guerre en France, parce qu'on avait quand même l'ORTF, enfin la radio avant d'être l'ORTF était dirigée par un grand poète, qui était Jean Tardieu.
Et puis il y a eu Paul Gidson aussi.
Il y a eu Paul Gidson, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait, et cette chose-là n'existe plus quand même. Je ne fais pas du tout un constat amer, puisque, vous voyez, la preuve, Clapas est écoutée dans le monde entier, mais... Mais quand même, on a changé d'époque, quoi. Et peut-être d'ailleurs, autre chose va venir. Autre chose du côté de l'oralité. Peut-être. Bon, on va. Vaut mieux laisser la parole au poète dans ce cas-là.
Come, dit l'anglais à l'anglais. Et l'anglais vient. Come, dit le chef de gare. Et le voyageur qui vient dans cette ville descend du train, sa valise à la main. Come, dit l'autre, et il mange. Comme, je dis comme et tout se métamorphose, le marbre en eau, le ciel en orange, le vin en plaine, le fil en six, le cœur en peine, la peur en scène. Mais si l'anglais dit as, c'est à son tour de voir le monde changer de forme à sa convenance. Et moi je ne vois plus qu'un signe unique sur une carte, las. De cœur, si c'est en février, las de carreau et las de trèfle, misère en Flandre, las de pique aux mains des aventuriers. Et si cela me plaît à moi de vous dire machin, potao, mousseline et potiron, que l'anglais dise machin, que machin dise le chef de gare, machin dise l'autre et moi aussi, machin et même machin chose. Il est vrai que vous vous en foutez, que vous ne comprenez pas la raison de ce poème, moi non plus d'ailleurs. Poème, je vous demande un peu. Poème, je vous demande un peu de confiture, encore un peu de gigot, encore un petit verre de vin pour vous mettre en train. Poème, je ne vous demande pas l'heure qu'il est. Poème, je ne vous demande pas si votre beau-père est poilu comme un sapeur. Poème, je vous demande un peu. Poème, je ne vous demande pas l'aumône, je vous la fais. Poème, je ne vous demande pas l'heure qu'il est, je vous la donne. Poème, je ne vous demande pas si vous allez bien, ça se devine. Poème, poème, je vous demande un peu. Je vous demande un peu d'or pour être heureux avec celle que j'aime.
Расстояние. Версты, мили, нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли. Расстояние, версты, дали, нас расклеили, распаяли, в две руки развели, распяв, и не знали, что это сплав вдохновений и сухожилий. Не рассорили, рассорили, расслоили стена даров. Расселили нас, как орлов, заговорщиков, версты дали. Не расстроили, растеряли. По трущобам земных широт рассовали нас, как сирот. Который уж, ну который, март. Разбили нас, как колоду карт.
L'enfant en culotte noire prit une gaule à la main pour décrocher les pommes. Ce qu'il espérait, c'était ce coin de bois d'où l'on découvre les fables. Pour partir en forêt, il s'était teinté en vert le galbe des cuisses. Ses boucles se mariaient aux feuilles. Ses traces étaient semblables à celles des bêtes de nuit. « Je suis fils des arbres !» se dit-il. Et il se demandait pourquoi jusqu'ici il avait dû demeurer dans la maison de son père.
Voilà, nous sommes toujours en compagnie de Anne Belin et de Michael Gluck pour cette émission spéciale enfance, on va dire. Enfance, parler de l'enfant, parler pour l'enfance, parler de son enfant. Et puis, voilà, on voudrait laisser une petite place un peu plus particulière à Michael maintenant pour nous parler de son, voilà, de son métier de poète.
Métier à tisser.
Métier à tisser, oui, parce que tisser, le mot tissage, c'est le texte,
c'est la même chose.
Le textile.
Voilà. En fait, nous sommes tous les enfants de Pénélope, en fait. Hein. Je veux dire, tout commence par la première grande œuvre dans notre Occident, en tout cas, hein, qui est une œuvre de femme. Hein. C'est chacun le sait, Pénélope qui écrit l'Odyssée. Et voilà, donc nous cherchons. Nous sommes toujours dans une espèce de quête comme ça, d'une langue toujours maternelle, bien évidemment, hein, qui nous permet de sortir de l'enfance. Voilà, je reviens à ça, de sortir de ce mutisme premier qui succède au cri premier. Voilà.
Et il y a quand même une part, peut-être Ulysse a une petite part là-dedans, petite quand même.
Ah oui, 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 il sait au moins tailler le lit dans l'olivier.
Et il voyage aussi.
Il voyage, mais en même temps, je trouve très beau, enfin, l'histoire du voyage, c'est une histoire de navette dans les deux cas, c'est un navire.
Absolument, voilà. C'est une navette. Uh-huh. Et c'est une façon de tisser l'eau aussi.
Oui, on tisse le paysage comme on tisse effectivement cette tenture de laine que l'on fait et défait. Et puis de là naissent les récits, de là naissent les cartes, puisque l'Odyssée c'est en même temps la première carte, mais poème. C'est une carte poème qui permet la navigation et la navigation côtière. Moi, c'est ce que m'a appris un capitaine de la marine marchande qui m'a dit, mais lui connaissait par cœur l'Odyssée. Il dit, ça décrit très très exactement la navigation côtière. Voilà. C'est assez magnifique ça.
Comme la carte du Tendre était une carte fluviale.
Oui, oui, oui. Mais parce qu'effectivement il nous faut toujours dessiner des paysages avec la langue et dans la langue construire, creuser des sillons. Voilà. Après, nous apprenons à lire et à délire. Et délire, c'est sortir du sillon.
Et c'est un travail à la pioche, à la bêche, à la pelle, au grattoir.
Le seul instrument que je n'utilise pas pour ma part, c'est le bulldozer. Mais on pourrait essayer.
On essaiera, certainement. On va écouter un texte d'Anne Belin, dit par Thérèse.
Là où les romans aboutissent, là où nous attend quelque chose de caché qui se révèle, et où il faut soulever les qui sont en jeu, les forces qui sauvages se révèlent mi-humaines, disons mi-bestiales, pour enfin constater qu'elles se rencontrent, ou bien qu'elles se immanquablement confondent, mais enfin révéler dans des scènes ou même parfois dans des descriptions qu'elles entrent en jeu. Et là, avant d'arriver là, s'enlisent dans les détails, les plans descriptifs, un tableau retourné vers la cheminée, la vie cachée dans un village, un banc sous la glycine, un portrait d'homme, le col découpé comme une truelle à poisson et qui marche tout seul dans l'ombre. Ne me dis pas que ce n'est pas l'écriture qui marche là toute seule sans cadre, sans se tenir à la rampe cachée dans l'ombre de l'escalier. Ne me dis pas qu'il n'y a aucune magie là-dedans. Ne me dis pas que tout est calculé au poil, prêt, que les effets sont prévus. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de surprise. Comment tiendrait-il, sinon dans cet ennui? Comment aligneraient-ils leurs phrases, leurs scènes, leurs dialogues face à la mer avec le galop du cheval en fond et la scène devant le rideau de la chambre sans ça? Tout ça est tellement ennuyeux, tellement lassant, c'est toujours tellement la même chose qui se passe. Voilà ce qui arrive quand on lit trop, quand on a trop lu depuis l'enfance et pendant encore des dizaines d'années. On ne lisait que ça et toujours à la recherche de ce choc, on se laissait dévorer, avaler, dévaler la pente, comme le long d'un toboggan, avant le choc, le coup dernier, le cul dans le sable. Ah !
Mort, j'appelle de ta rigueur, qui m'a ma maîtresse ravie et n'est pas encore assouvie si tu ne me tiens en langueur. Onque puis n'eut force ni vigueur, mais que te nuisait-elle en vie, mort? Deux étions et n'avions qu'un cœur. S'il est mort, force est que de vie. Voir ou que je vive sans vie, comme les images par cœur, mort.
Premièrement, il y a beaucoup de mérite à épouser une femme plus jeune que soi. Il y a beaucoup de mérite à épouser une femme. Il y a beaucoup de mérite à épouser. Il y a beaucoup de mérite, sans compter les emmerdements. Deuxièmement, il y a beaucoup de mérite à épouser une femme plus vieille que soi. Il y a beaucoup de mérite à épouser une femme. Il y a beaucoup de mérite à épouser. Il y a beaucoup de mérite, sans compter qu'il y a des emmerdements. Troisièmement, il y a beaucoup d'emmerdements, sans compter le mérite d'épouser une femme.
Est-ce que telle ou telle nuit, quelqu'un s'inquiéterait si telle petite silhouette glissait sans bruit de sa chaise, si silencieuse, oh tellement silencieuse, que personne ne pourrait savoir que cette petite silhouette se balançait en un doux va-et-vient. Est-ce que, par telle ou telle aube, quelqu'un soupirerait si une telle petite silhouette restait couchée en trop profond sommeil, pour que Chanteclair la réveille, ou l'agitation dans la maison, ou l'oiseau foufou dans le verger, ou une tâche matinale à exécuter. Dans chaque petit monticule tomba comme une masse une petite silhouette, aiguille active, bobine de fil, pied qui traîne en rentrant de l'école, camarade de jeu, vacances, noisettes, et visions petites et grandes. Comme c'est étrange que des pieds portant une charge si précieuse atteignent un si minuscule but.
Voilà, nous sommes toujours en compagnie d'Anne Belin et de Michael Gluck pour cette émission un peu spéciale consacrée à l'enfance dans la poésie, ou la poésie de l'enfance, ou on ne sait pas trop quoi. Et moi, j'ai juste relevé dans le texte que Thérèse lisait de vous tout à l'heure, Anne, « Quand on a trop lu depuis l'enfance ».
Oui.
Vous les brodez là-dessus et nous dire, ça a été votre cas ?
Oui, j'ai beaucoup lu dans mon enfance. Je me revois par exemple lire Les Misérables de Victor Hugo dans une grosse édition, ces gros livres qu'on faisait et qui étaient mangés par les rats. C'était un truc qui sortait d'un grenier, d'une grand-mère. Mais je me revois éprouver des choses mais extraordinaires dans ce livre, des choses très belles par l'odeur du livre, par... voilà, et certains épisodes, même dans des choses que je ne comprenais pas très bien, mais évidemment, je devais avoir peut-être 10 ans. Alors voilà, c'est des grands souvenirs. Je me souviens que ma mère criait parce que je lisais et qu'elle trouvait que je m'isolais dans la lecture, bien sûr, hein, et elle trouvait que j'aurais dû l'aider et venir rendre des services à la cuisine. Et alors elle criait, elle m'appelait, elle disait « Qu'est-ce que tu fais ?» Et je disais « Je lis ». Alors qu'aujourd'hui, on oblige tellement d'enfants à lire. Mais en même temps, peut-être que j'ai trop lu.
Et pourquoi trop, alors ?
Parce que ça noie quelque chose aussi.
Apparemment, il y a beaucoup d'asticots, par exemple, qui meurent dans des livres, mais des humains, jamais, j'ai pas l'impression.
Oui, peut-être que mon enfance a quand même été avalée un peu dans les livres. Peut-être que, bon, je ne sais pas. C'est possible quand même, parce que c'était des lectures très abondantes et peut-être trop pour mon âge aussi, des choses trop pour des gens beaucoup plus vieux, trop tôt.
Mais est-ce que vous voulez dire que maintenant vous devez vous débarrasser de tout ce poids pour libérer l'écriture ?
Un peu, parce que on peut pas. Pour écrire, il faut une liberté, bien sûr. Donc, on ne peut pas rester dans cette disposition vis-à-vis des textes, qui est un peu une disposition d'enchaînement, quand on est comme ça, un peu enfermé quand même. Hein, en fait, j'ai arrêté de lire à un moment, complètement, pendant 2 ans. J'ai fait une sorte d'anorexie de lecture, mais à l'âge adulte. Mais vraiment, complètement, c'était impressionnant. Je ne lisais plus du tout pendant 2 ou 3 ans. Et après, je n'ai lu que de la poésie. Voilà, et après, j'ai un peu réappris à lire.
Et vous continuez à ne lire que de la poésie ?
Non, pas du tout. Non, maintenant, je relis.
C'était une
tout.
Sorte de un jeûne, quoi.
Je relis de tout. Oui, il y a eu un jeûne. Il y a eu une rupture de l'enfance, en fait. Une rupture de la façon de se laisser prendre, de se laisser avaler comme ça par les livres. Essentiellement des romans, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, je ne lisais pas du tout de poésie.
Mais il me semble aussi que vous lisez bien le monde réel. Parce que je me souviens à Bédarieux d'un poème qui se passait dans le métro.
Ah oui, c'est possible, oui.
Des impressions dans le métro. On était vraiment avec une prise du réel.
Ah oui, c'est-à-dire que... Je pense que pour moi, la littérature reste quand même référentielle. Elle ne peut pas totalement s'absorber dans le discours sur elle-même ou sur sa propre valeur, sa propre difficulté. Il faut vraiment... Il y a une parole qui doit, disons, parler du monde et parler aux autres aussi.
Est-ce que Michael Gluck veut nous parler du monde ?
Commencez par la cave. Les odeurs de la cave. Terre battue, charbon, buanderie. Le chant des lessiveuses, avant que linge soit au lavoir porté. Tonneaux de son, tonneaux de blé, carrés de sable fin, humide, onctueux, où blanchissaient les endives. Le sang. Grand-père rapportait du clapier un lapin, le tenait par les postérieurs dans sa main gauche, frappait d'un coup sec derrière la tête, du tranchant de la droite, soubresaut bref, puis il pendait la bête à une poutre. Le sang gouttait sur la terre noire, l'ombrait, creusait les ténèbres. Odeur de sang de la cave, parfum de la cendre, alchimie de la vie. Les travaux reconduisent l'humanité d'un jour à son lent demain. Ou bien, commencez par le grenier, les odeurs du grenier. Vieille paille, tresses d'oignons et d'ail, poussière, morceaux de fromage rancis sur les tapettes à souris, meubles remisés avec reliques d'encaustiques, peaux des bêtes de la cave, fantômes pendus dans l'attente des cris qui viendront de la rue, marchands de peaux de lapin. Et puis, et surtout, les paquets de journaux, l'intrépide, Cinémonde, les anciens livres de prix d'autres enfances, les grands volumes rouges à lettres d'or, romans d'Erckmann Chatrian, et l'œuvre, la grande œuvre, les deux tomes du théâtre complet de William Shakespeare, racontés et illustrés de gravures qui me fascinaient et me terrifiaient. Les toiles d'araignées avaient la puanteur des haillons des sorcières, des linges déchirés de Lady Macbeth.
L'orgie et la camaraderie des femmes m'étaient interdites. Pas même un compagnon. Je me voyais devant une foule exaspérée, en face du peloton d'exécution, pleurant du malheur qu'il n'ait pu comprendre en pardonnant, comme Jeanne d'Arc. Prêtre, professeur, maître, vous vous trompez en me livrant à la justice. Je n'ai jamais été de ce peuple-ci. Je n'ai jamais été chrétien. Je suis de la race qui chantait dans le supplice. Je ne comprends pas les lois. Je n'ai pas le sens moral. Je suis une brute. Vous vous trompez. Oui, j'ai les yeux fermés à votre lumière. Je suis une bête, un nègre. Mais je puis être sauvé. Vous êtes de faux nègres, vous, maniaques, féroces, avares. Marchand, tu es nègre. Magistrat, tu es nègre. Général, tu es nègre. Empereur, vieille démangeaison, tu es nègre. Tu as bu d'une liqueur non taxée, de la fabrique de Satan. Ce peuple est inspiré par la fièvre et le cancer. Infirmes et vieillards sont tellement respectables qu'ils demandent à être bouillis. Le plus malin est de quitter ce continent où la folie rôde pour pourvoir d'otages ces misérables. J'entre au vrai royaume des enfants de Cham. Connais-je encore la nature? Me connais-je? Plus de mots. J'ensevelis les morts dans mon ventre. Cris, tambour, danse, 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 danse. Je ne vois même pas l'heure où les blancs débarquant, je tomberai au néant. Faim, soif, cris, danse, 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 danse.
Tu ne peux pas savoir. Tu ne sauras jamais ce qui fut moi. Cet homme épouvantable. Ainsi disait-il au miroir. Et pendant ce temps-là, la mer montait, la mer atteignait le plafond et refermait la bouche. On entendait au loin un piano. Des enfants revenus pour mourir de campagne féroce jetaient négligemment leurs poings noirs dans les vitres. Il demeurait, songeant peut-être à des étés, à des feux de Saint-Jean nourris de jeunes filles, à des pas sur la neige. Car cet homme était bon, malgré ses mains velues, malgré ce brin de feu qui courait dans sa barbe. Et lorsqu'il étranglait les oiseaux, il pleurait, disant, levant les mains, « Mon Dieu, est-ce ma faute, s'il n'est d'autre chaleur que la chaleur du sang ?»
Isabelle rencontra Marie au bas de l'escalier. « Tu n'es qu'une chevelure, lui dit-elle. »
Et toi, une main?
Main toi-même, omoplate.
Omoplate? C'est trop fort, espèce de sein.
Langue, dents, pubis.
Œil.
Cils, aisselle, rein.
Gorge, oreille.
Oreille, moi? Regarde-toi, narine.
Non, mes vieilles gencives.
Doigts.
Con.
Comme par miracle, des oranges aux branches d'un oranger. Comme par miracle, un homme s'avance, mettant, comme par miracle, un pied devant l'autre pour marcher. Comme par miracle, une maison de pierre blanche, derrière lui sur la terre est posée. Comme par miracle, l'homme s'arrête au pied de l'oranger. cueille une orange, l'épluche et la mange. Jette la peau au loin et crache les pépins. Apaisant, comme par miracle, sa grande soif du matin. Comme par miracle, l'homme sourit, regardant le soleil qui se lève et qui luit. Et l'homme ébloui rentre chez lui. Et retrouve, comme par miracle, sa femme endormie, émerveillée de la voir si jeune, si belle, et comme par miracle, nue dans le soleil, il la regarde, et comme par miracle, elle se réveille et lui sourit. Comme par miracle, il la caresse, et comme par miracle, elle se laisse caresser. Alors, comme par miracle, des oiseaux de passage passent, qui passent comme cela, comme par miracle, des oiseaux de passage qui s'en vont vers la mer, volant très haut, au-dessus de la maison de pierre, où l'homme et la femme, comme par miracle, font l'amour. Des oiseaux de passage au-dessus du jardin, où, comme par miracle, l'oranger berce ses oranges dans le vent du matin, jetant, comme par miracle, son ombre sur la route. Sur la route où un prêtre s'avance, le nez dans son bréviaire et le bréviaire dans les mains, et le prêtre marchant sur la pelure d'orange jetée par l'homme au loin, glisse et tombe, comme un prêtre qui glisse sur une pelure d'orange et qui tombe sur une route un beau matin.
Voilà, ainsi s'achève cette deuxième émission consacrée à l'enfance et qui était un peu une spéciale Printemps des Poètes avec plein d'extraits de textes que nous avions enregistrés au cours des émissions des quatre dernières années. On avait comme invités Anne Belin et Michael Gluck, qu'on remercie chaleureusement d'être venus avec nous, d'avoir lu leurs textes et d'avoir joué le jeu du risque du direct avec nous. On remercie également tous les camarades de la Bible qui avaient enregistré ces textes. Je vais dire un petit peu rapidement Julien Guil, Cécile Convredet, Florence Mourieras, Delphine Mélez, qu'on a retrouvé avec beaucoup de plaisir, Philippe Goudard et aussi Marc Pastor, évidemment. Les textes qui ont été dits au cours de cette émission étaient de René Char, de Jacques Prévert, en nombre, de Marina Tsvetaeva, de Robert Desnos, de François Villon, dit par Michael Gluck, à l'occasion de l'émission qu'on lui avait consacrée, de Boris Vian et de René Guicadou. Et puis les musiques aussi, puisque en dehors de cet indicatif que nous ont généreusement donné nos amis du Hadouk Trio, il y avait des musiques de Miguel Poveda qui accompagnaient le texte que Patrick disait au début de cette émission, le texte de Char, également Egberto Gismonti et John Metcalf.
Et même Arthur Rimbaud est venu nous visiter.
Oui, c'est vrai, j'ai oublié Arthur Rimbaud et Emily Dickinson aussi. Je vais me faire des amis, moi, dans cette émission. Voilà, qui était dit par Yvon. Et puis, quand même, ne pas oublier qu'autour de cette table, il y avait aussi Patrick Vendrin, Thérèse Bonetta, Yves Flanc et moi-même qui avons préparé cette émission. Vous pouvez retrouver la Bible dans tous vos lieux de travail, de paresse et de loisirs pour l'inviter à dire la poésie. Car il n'est de bonne poésie que dite.